France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À la fin de l'année 1985, Roger Lénard avait accordé un entretien à Dominique Rousset pour l'émission Mémoire du siècle. Né en 1903 à Montpellier, il fit ses premiers pas dans le monde du cinéma au début des années 30, en officiant comme monteur pour les actualités filmées et Clair Journal. Devenu ensuite réalisateur de documentaires, il fut aussi critique de cinéma, notamment au sein de la revue Esprit. C'est sans doute à ce titre que son influence fut la plus déterminante, notamment sur André Bazin et par ricochet sur toute la génération de la Nouvelle Vague. Godard lui fit incarner l'intelligence dans son film Une femme mariée et Truffaut lui confia un petit rôle dans L'homme qui aimait les femmes. Réalisateur de seulement 3 films de long métrage, il fut aussi l'auteur de plusieurs émissions de radio consacrées au cinéma et connut dans ce cadre Pierre Schaeffer. C'est ce dernier qui lui rendait hommage en ouverture de cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 décembre 1985, c'est-à-dire 2 semaines à peine après la disparition brutale de Roger Lénard le 4 décembre cette année-là.
Mémoire du siècle, hommage à Roger Lénard. Pierre Schaeffer.
Pour parler de Roger Lénard, je prendrai le temps de tous les jours, celui de nos métiers par exemple, celui de nos pensées habituelles. Celle que nous confions parfois à un micro pour quelques films, quelques diffusions par le son et l'image. C'est que Roger Lénard fait partie de cette génération, la mienne, et elle est en train de disparaître, qui a eu le privilège d'assister à la naissance de l'audiovisuel, de son expression originale, de sa diffusion de masse. Et dans cette course-exploration, relativement récente, parce que ça fait 50 ans pour sa phase de développement, il y a toujours eu un peloton de tête. C'est comme dans les courses cyclistes. Ce n'est pas la distance qui compte entre les coureurs, le tout est d'avoir une longueur d'avance. Ou bien pour les plus faibles, d'être dans l'ombre du précédent, roue contre roue, pour profiter du coupe-vent. On peut s'étonner que de si infime décalage compte tellement, au point qu'il désigne le gagnant ou le plus fort, ce qui sert d'exemple. C'est que les hommes ne sont pas tellement différents, mais que la marge est mince, souvent, entre le champion et l'émule. Émulation, oui, mais dans la commune proximité. Ainsi, parler de Roger Lénard, c'est pas célébrer l'exception, et même le génie, c'est plutôt dire quelqu'un qui a précédé autant qu'accompagné, qui comptait dans la course, non pas seulement pour lui, mais pour les compagnons. Beaucoup de talents nous ont aidés dans ce périple, dont on n'a même pas eu le temps de relever l'itinéraire. Ces talents étaient tantôt techniques, ou artistiques, ou de gestion. Il était rare que le même homme cumule les 3 aspects et les coordonne à une fin raisonnable, en même temps qu'inspiré. C'était le cas de Roger Lénard, qui parlait comme Montaigne de raison gardée, mais aussi, en plus romantique, d'une raison ardente. C'est en quoi il s'opposait aussi bien aux naïfs qu'aux blasés, aux malins qu'aux désabusés.
Roger Lénard, cinéaste, documentariste, critique de films, homme de radio, était à Paris le mois dernier, venu de son midi languedocien où il résidait. Paris où ce huguenot, fils de la grande bourgeoisie libérale, doué pour la science comme pour la philosophie, était monté, étudié, puis travaillé au début de ce siècle. C'est là qu'il est mort, brutalement, le 4 décembre dernier, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 84 ans. Roger Lénard nous avait accordé un long entretien quelques jours avant sa disparition, de sa voix chaleureuse d'homme du Sud avec un évident plaisir de raconter, avec esprit, gentillesse, causticité parfois, le ton au fond et la liberté d'esprit qui l'ont rendu célèbre, et par-dessus tout, la passion de la vie.
Un homme se comprend, et une vie se comprend à partir de son départ et de son enfance. Je ne peux pas me situer sans me voir, sans savoir que je suis né dans le Midi, et que pourtant, ma première image, dont je me souviens, est le bassin du Luxembourg. J'ai fait un film, un dessin animé sur le bassin du Luxembourg, et je me suis aperçu qu'il était octogonal, alors que dans mon souvenir, je me rappelais simplement, vu, si vous voulez, du haut du jardin, un bassin rond. C'est quand j'avais 4 ans. Parce que tout de suite après ma naissance à Montpellier, mes parents habitaient Paris. Et mon premier souvenir est parisien. Or, je considère que c'est justement le rapport Paris-Province qui est très important. Et je suis, si vous voulez, absolument anti-régionaliste. L'idée qu'une région est essentielle, je n'y crois pas. Et mon père avait tellement le sens de la France qu'il ne voulait pas, pour les vacances, rester dans la région. Et que j'ai passé entre 5 ans et 15 ans, ou 13 ans, puisqu'il est mort, 15 ans, c'était la guerre après, je suis allé chaque année passer le mois d'août, quelquefois en Bretagne, quelquefois dans les Pyrénées, quelquefois ailleurs, et j'ai connu la France entière. Et d'ailleurs, j'ai fait plus tard des films sur la France, et je considère que la France est un ensemble, et que je suis vigoureusement contre le régionalisme et rien qui m'agace comme les gens d'Oc et les Occitans.
Vous dites cela parce qu'on a tendance à vous classer comme languedocien, parce que vous y vivez une grande partie de l'année.
Oui, c'est ça. Et puis surtout parce qu'il y a une espèce de tendance bizarre qui fait que maintenant l'occitanisme et le régionalisme est une tendance de gauche. Or, c'est ridicule, n'est-ce pas? Pratiquement, s'il y a eu une entité occitane, c'était du temps de Mistral et de Maurras, elle était de droite. Alors, rien ne m'agace comme l'idée que ce soit justement la gauche qui parle contre Paris, alors que c'est Paris qui a apporté la République dans un Midi qui était royaliste. Après avoir fait mes études à Montpellier, mon père est mort, et c'est au lendemain de la mort de mon père que je suis parti pour Paris, n'est-ce pas, faire bien entendu des ce qu'on appelait l'hypotope, c'est-à-dire la première classe des mathématiques spéciales, de façon à être reçu à normale supérieure science, n'est-ce pas. Mais alors il s'est passé une chose très curieuse, c'est que j'étais maintenant très intéressé par les questions littéraires et artistiques. Et c'est comme ça que je ne suis pas resté un mathématicien. Et je me rappelle qu'un dimanche, pour me reposer, je suis allé voir une pièce ridicule de Francis de Croisset, auteur évidemment secondaire. Néanmoins, cette pièce portant sur un sujet dramatique, etc., m'a tellement touché que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à faire des intégrales triples, alors que tout ce qui m'intéresse, c'est ce dont je parle l'été avec mes amis, la littérature, la philosophie, etc. Et c'est pour ça que tout d'un coup, j'ai abandonné les mathématiques et je suis passé en philosophie à la Sorbonne. Brusquement, alors quand j'ai été à la Sorbonne, j'ai vraiment alors pris contact avec justement tout le milieu de Paris. Il faut dire que j'avais un maître remarquable qui est totalement oublié. Vous savez qui est Bergson, vous ne savez peut-être pas, malgré votre culture, qui est Braunschweig. Je me rappelle que Raymond Aron, qui était un de mes amis, avant de mourir, avait dit « Comment se fait-il que Braunschweig soit oublié à ce point, alors que ça a été un des philosophes qui a compté de sa génération ?» Braunschweig était un philosophe de l'immanence, n'est-ce pas? Il disait « L'immanence, c'est la spiritualité du spiritualisme ». Et moi, j'étais très impressionné par lui. Il ne préparait pas ses cours, il improvisait. Alors, ce qui était merveilleux, c'était de sentir que ça le menait à des choses merveilleuses. Tout d'un coup, on revient, par exemple, il dit on peut définir le problème de la vie entre deux vers qui sont opposés. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois, Et le deuxième, qu'est-ce donc que cela qui n'est pas éternel ? Il avait ce génie de la chose. Et alors, il était, lui, comme il a fait, vous savez, une histoire des mathématiques, la philosophie mathématique, il était intéressé par le fait que, d'habitude, quand un type est philosophe, il ne sait rien des maths. Et Braunschweig m'a dit, prenez comme diplôme la philosophie mathématique de Malebranche, ce qui a été le sujet de ce diplôme que j'ai totalement oublié. Au moment où je faisais ce diplôme, j'avais cessé d'aller uniquement à la Sorbonne, je ne travaille pas beaucoup, finalement j'ai fait ce diplôme, je l'ai eu, parce que Braunschweig, très gentiment, je me rappelle qu'il m'a répondu, on joue une pièce à la Comédie Française de Jean Sarmant qui dit « Je suis trop grand pour moi ». Je modifierai la formule et en voyant votre diplôme qui est un excellent article, je dirais « Vous êtes plus grand que vous ». Et alors moi j'allais beaucoup à Montparnasse. J'ai passé du quartier latin à Montparnasse où Kiki de Montparnasse chantait au jockey. Et j'ai vécu dans ce milieu où il y avait beaucoup d'artistes et nous avions tous une espèce de goût au fond de l'aventure. On voulait partir. Et moi j'avais envie, j'en avais marre de Paris et j'avais envie de partir. Et à un moment donné, à la suite de l'histoire un peu sentimentale, etc., dont je ne parlerai pas, j'ai décidé, j'avais eu l'héritage de mon père qui était mort, qui n'était pas grand-chose, et de ma mère aussi d'ailleurs, qui était morte très rapidement après mon père. J'avais un peu d'argent, et j'étais allé à un moment donné faire un séjour en Corse, dans une petite village perdu du golfe de Girolate, et j'avais vu qu'un paysan gagnait une vraie fortune avec une quarantaine de plants de cédrat. Cédratier produit des cédrats, vous savez, qui est un...
Des gros citrons,
des fruits, on fait des gros citrons, on fait des fruits confits, etc., qui valaient un prix fou. Et je me suis dit, s'il y avait 40 cédratiers là, si moi j'en plante 2000, je vais faire fortune. Et alors, je suis allé là-bas, j'ai vu le directeur de, pas du Crédit Agricole, mais enfin, de truc d'agriculture, qui m'a dit, mais vous avez une très bonne idée. La preuve, c'est que j'ai moi-même fait une énorme plantation. J'ai toute une installation avec de l'eau. Et donc, si vous voulez, je vous la cède, si vous me donnez un peu d'argent. Bien entendu, pas de chance. Brusquement, comme tout le monde a fait la même idée que moi, le prix des cédrats est tombé de 90% en 2 ans. Ce qui fait qu'au lieu de faire gagner fortune, finalement, je me suis à peu près ruiné en Corse.
Et vous êtes tout de même exilé en choisissant cette aventure corse de la vie parisienne qui vous plaisait tant, parce que vous dites, vous avez découvert Montparnasse dans les grandes années.
Mais alors c'est comme ça. Il y avait brusquement une envie de faire autre chose. Et moi, je sais que je voulais partir en Colombie parce que j'avais vu une phrase de Valéry disant sur les femmes, sur les sont les plus caressantes du monde. Mais comme c'était un peu loin, j'ai dit, on ira en Corse, on gagnera notre premier million or, et puis on ira en Colombie. Puis je suis allé en Corse, et puis je me suis ruiné. Alors, je me suis dit, ça va pas. Alors, il faut que je trouve un autre moyen pour partir plus loin, parce que la Corse, je me ruinais, etc. J'ai laissé la propriété que je n'avais pas achetée, d'ailleurs, que j'avais simplement louée pour 50 ans, et qui a été reprise par le Corse malin qu'il avait gardé. Je l'ai laissé à mon frère, un jeune frère à moi, mais je ne l'ai pas fait payer. Et moi, je me suis dit, je vais être inspecteur des colonies. Parce que je dis, comme inspecteur des colonies, j'irai en Afrique, et là, je ferai ce que je voudrais. Par conséquent, j'ai vu qu'on pouvait, si on avait été reçu au Conseil d'État, automatiquement, on pouvait être inspecteur des colonies. Alors, je dis, je vais aller préparer le Conseil d'État ou la Cour des comptes, c'est-à-dire ces postes très important, ce qu'on appelle les énarques, qui aujourd'hui sont devenus prodigieux, mais à ce moment-là, l'école des sciences politiques n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle était réservée plutôt à une minorité de même milieu de gens très, très riches, des grands bourgeois parisiens. Il n'y avait pas de provinciaux. Les gens qui allaient aux sciences politiques étaient des parisiens en général. Alors j'y suis allé. Je suis allé à ce cours. Moi, j'étais très cultivé. J'avais fait une licence de philo, un diplôme d'études supérieures. Je trouvais ça très mauvais. Les cours étaient sans intérêt. C'était la première année. La seconde année du concours, c'était probablement plus sérieux. Et je me rappelle que j'ai été convoqué par le directeur qui m'a dit « Monsieur, je m'aperçois que vous suivez très peu le cours. Je vois très bien qui vous êtes. Vous êtes un de ces garnements qui font sauter les dollars de monsieur votre père. » Je me rappelle que j'ai pris très haut, je dis « Monsieur, mon père est mort, je n'ai pas beaucoup de dollars peut-être, mais enfin, c'est étonnant, mais je dois dire que je suis licencié en philosophie, diplômé d'études supérieures de philosophie, et qu'effectivement, si je ne vais pas au cours, c'est que le milieu est assez lamentable, et notre visite est très bien, puisqu'elle me donne le plaisir de vous dire que je vous donne ma démission, et que je pars de... Parce que je lui avais dit, je veux être inspecteur des colonies, mais il avait dit que personne qui est au Conseil d'État ne veut être inspecteur de colonies, qui est un poste secondaire, ce qui est vrai, c'est ridicule. Et alors, j'ai quitté... Et je me suis aperçu que, en ayant simplement une licence de philosophie, on pouvait être nommé adjoint des services civils, qui est quelque chose comme administrateur des colonies. Et je suis parti comme à l'Afrique, brusquement, ayant ce titre. Et je suis parti, j'ai pris le bateau pour Dakar, en pensant que j'allais découvrir l'aventure africaine.
L'Afrique que découvre en fait Roger Lénard, c'est un petit village perdu à l'extrême nord de la Haute-Volta. Il y occupe une fonction d'agent spécial, c'est-à-dire chargé de collecter les impôts. Un bon poste d'observation de la vie coloniale.
Je distingue trois sortes de blancs. Les fonctionnaires coloniaux, les blancs qui allaient là-bas pour faire du commerce, et puis les militaires. Eh bien, mon sentiment... c'est que les rapports des blancs et des commerçants étaient effrayants, il s'agissait de les gruger. Les militaires avaient un rôle sinistre, parce que ça consistait à ça faisait venir tous les types à 21 ans pour les examiner, on en faisait engager quelques-uns pour les envoyer en France. Ce qui jetait un trouble effroyable, parce que ces types, quand ils étaient partis en France, et qu'ils étaient, ils revenaient quelques années après, ils étaient allés à Marseille, ils avaient couché quelquefois avec des putains blanches, ils se croyaient les maîtres, et ils ne voulaient plus obéir à leur chef noir, n'est-ce pas ? Alors c'était un trouble sociologique épouvantable. Tandis que je dois dire qu'au contraire, à quelques exceptions près, j'ai eu le sentiment que l'administration coloniale prenait la défense des Noirs contre les militaires et contre les commerçants. C'était très délicat parce que, je me rappelle, vous comprenez, pour ce qui était la correctionnelle, ben, qui n'était pas les crimes qu'on tue ou on tue quelqu'un, le jugement était rendu dans le poste même, dans le cercle où on était. Et moi, par exemple, j'ai assisté à des séances régulières. On avait deux Noirs notables qui servaient de conseillers. Et il y avait des types qui venaient se plaindre. Et alors, l'administrateur, après prier conseil des Noirs, jugeait. Et l'idée était qu'il fallait juger un peu selon la coutume, pour ne pas désorienter ces pauvres Noirs. Il fallait quand même comprendre que chez eux, c'est pas pareil que chez nous. Et transposer... Quand le type avait fait un crime où on disait qu'on lui donne trois coups de bâton, on lui disait qu'il aura un jour de salle de police. Quand on lui coupait le petit doigt, on lui disait qu'on ira deux mois de prison, quoi. Mais il y avait une idée, c'est que quand c'était atteinte aux choses, mais disons pas aux droits de l'homme, mais aux choses très importantes, il fallait juger suivant la loi française, non pas suivant la loi indigène. Et ce qui est affreux, je dois vous dire... c'est que c'est le rôle des femmes. Parce que, au fond, les femmes indigènes étaient très libres. Vous comprenez, c'est l'inverse de la dot. Vous savez, c'est un système matriarcal. Et alors, la moitié des procès, c'est des types qui venaient dire « ma femme est partie », qu'on envoie les gendarmes pour la rattraper. Et ça, on disait, c'est la loi française, la femme doit suivre son mari partout où il va, n'est-ce pas ? C'était en 1928, aujourd'hui c'est un peu différent. Et alors, théoriquement, on rattrapait la femme qui devait rester au domicile conjugal. Vous voyez, un exemple parfait de...
Elle est à l'encontre, en fait, oui, de la coutume locale.
C'est ça.
Alors, 1929-1930, vous êtes de retour en France, donc après cette expérience coloniale que l'on va abréger un petit peu.
Oui.
Et en arrivant à Paris, alors là, vous rentrez... Enfin, j'allais dire, mais enfin, vous étiez encore bien jeune, dans les milieux du cinéma, de l'audiovisuel que vous ne deviez plus quitter.
C'est pas exactement, c'est absolument par hasard. Le fait est que quand je suis rentré, j'ai voulu retourner en Corse, je me suis marié à ce moment-là. D'ailleurs, je suis rentré d'Afrique parce que j'ai appris que ma femme, pourquoi ne pas le dire, rentrait qui était mariée, rentrait d'Indochine sans son mari. J'avais eu 3 ans de plus, j'avais de sérieux. Je me dis, maintenant, je la convaincrai que c'est moi qu'elle aime. Et en effet, je suis rentré et en effet, je l'ai épousée. Et je suis retourné en Corse, que j'avais laissé à mon frère, mais je me suis dit, il n'y a rien à faire ici. Et ma femme m'a dit, Roger, quand on est comme vous, intellectuel, on vit à Paris, vous devez être écrivain, vous devez être artiste, enfin ne soyons pas planteurs de cédras, surtout pour continuer à nous ruiner. Alors je lui ai dit, vous avez raison, seulement, vous savez, comme je n'avais plus d'argent, ou très peu, avec des bribes de la fortune paternelle, je me suis dit, je vais faire ce qu'ont fait Paul Valéry, ce qu'ont fait Courteline, c'est-à-dire entrer comme fonctionnaire, et là je pourrais écrire pour me faire plaisir. Et je suis rentré à Paris comme...
Mais au fond, vous cherchiez une planque, comme on dit vulgairement.
C'est ça. Mais dans la fonction publique. J'avais pas du tout le désir de servir la fonction publique, l'État. Ouais. Non, absolument. Mais je me suis dit, je serais tranquille et là, je pourrais faire ça.
Derrière mes piles de dossiers administratifs.
Voilà, exactement. Et alors, à ce moment-là, j'ai présenté 3 concours, on appelle l'intérieur, le ministère des travaux publics ou des points chaussés, je ne sais plus quoi, et puis la préfecture de police, qui était... Et j'ai été recollé à l'intérieur, mais j'étais reçu aux 2 autres. Mais à ce moment-là, il y avait le décret Chéron, 32. Vous savez, la France était dans un état terrible. C'était la grande crise économique. Et pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chômeur. Mais vous voyez, tous les chômeurs, ils touchent beaucoup d'indemnités. Il y avait beaucoup d'indemnités de chômage. Puis c'était une situation différente. Les gens ne s'occupaient de ça. Moi, j'avais des oncles très riches. Et on disait, mon ami, tu vas te débrouiller. On ne s'intéressait pas aux problèmes de la pauvreté. Alors,
il n'y avait pas de solidarité, vous voyez.
Et alors, il y a eu un décret, oui, c'est un décret Chéron, qui a interdit, pour faire des économies, d'engager de nouveaux fonctionnaires, même s'ils étaient reçus. Alors, j'ai été reçu et je ne pouvais pas entrer. Alors, je dis, comment faire? Il fallait bien que je gagne ma vie. Et à ce moment-là, j'avais un cousin qui était ingénieur du son, ce qui était un métier neuf, parce que le cinéma, c'était en 32, venait de devenir parlant.
1929, je crois, le premier film parlant.
Oui, c'est ça. Et alors, 32, c'était quand même pas très important. Et alors donc, lui, il était ingénieur du son à Éclair. Il y a toujours les studios Éclair, d'ailleurs, qui sont là-bas, épinés. Et il m'a dit, mais tu t'intéresses au cinéma, je vois, j'allais en effet un peu au ciné-club, etc. Un bon métier, c'est le montage. Or, je peux te trouver une place comme stagiaire. Et alors, je vais à Éclair. Et je suis stagiaire d'une fille charmante, qui s'appelle Paula Tsang, qui montait le film, un film Crinquebille, qui était joué non pas, il y a eu un premier film connu par, qui est joué par Monsieur de Ferrodi, mais il a été joué par Larquet. C'était un film de Baron Selly, le père de Baron Selly,
le critique.
Lui, il s'intéressait qu'au film muet, comme tout le monde, n'est-ce pas? Comme le cinéma parlant, il était obligé, puis c'était la mode du parlant, il parlait. Mais il laissait sa monteuse, écoutez, vous montrez la scène, hein, vous y connaissez mieux que moi, moi j'ai horreur de ces histoires, allez trouver le son, arrangez ça comme vous voulez. Et moi au contraire, j'étais passionné de voir, et c'est là brusquement, la première fois que j'ai appris, moi je, en principe je l'ai aidé pour coller, il n'y avait pas de scotch à ce moment-là, on le collait à la main là. Mais enfin, je suivais la chose, et j'ai vu là brusquement que le montage de la bande son est le même que le montage de la bande image, que le problème est de savoir si on fait chevaucher le son sur l'image, ou bien on n'était pas obligé que quand le type parle, on le voit. On peut voir un autre type et l'autre parle. Et j'ai compris toutes les ressources du cinéma parlant, et brusquement ça a modifié ma conception du cinéma. Ce qui fait que tout de suite, j'ai senti que le parlant était une révélation. Alors que tous les gens, comme Baron Selly, considérer que c'était la fin du cinéma, qu'on entrait dans le théâtre filmé, et que le cinéma, qui était une musique de l'image, comme dit Abel Gance, était fini. Alors c'est le montage qui m'a fait, et je m'en suis servi, nous en parlerons plus tard, quand j'ai été critique de cinéma, qui m'a appris, au fond, ce qu'était le cinéma. Mais la chance que j'ai eue, c'est que au bout de 2 mois, j'avais donc à peine le temps de faire quelque chose, il y a Éclair Journal, qui est un journal d'actualité, qui a changé de patron, et alors on a changé de monteur, et on a demandé à Paula, qui est elle qui montait les films, comme Crinquebille, si elle voulait pas devenir chef monteuse à Éclair Journal. Alors il fallait qu'elle prenne un adjoint, mais elle m'a dit, Si je prends un adjoint homme, vous savez, il prendra ma place. Tandis que vous, vous débutez, vous n'y connaissez rien, vous êtes intelligent et vous êtes charmant, on s'entend très bien, est-ce que vous ne voulez pas être mon adjoint? Ce qui fait que 2 mois après avoir commencé comme stagiaire, dans cette période de crise économique, j'ai été, et le cinéma était très bien payé, j'ai été payé, et j'avais un métier qui était monteur adjoint au journal d'actualité des Clair Journal.
Du montage au commentaire parlé des films, du commentaire à la réalisation, très vite, Roger Lénard tourne ses premiers documentaires dans un style rigoureux qui fera école et qu'il a défendu toute sa vie. Son tout premier film, Le tissage du tapis moquette, puis un film sur les revêtements routiers et Route nationale 35, qu'il affectionnait particulièrement.
C'est en effet un des premiers films que j'ai fait et je l'ai revu, c'est un des rares documentaires que j'ai fait à cette époque qui ne se sont pas pourris dans les caves de la Cinémathèque, ce qui est d'arriver à beaucoup d'autres, et je l'ai revu, et j'ai été amusé. Je me rappelle simplement une, pour vous montrer comment les choses ont changé, vous savez, c'était l'époque quand vous alliez en voiture de Paris à Marseille, vous rencontriez une voiture tous les 5 minutes, il y avait très peu d'auto, n'est-ce pas ? Et je me rappelle que dans ce RN35, un jour j'arrive, et je vois une chose qui me semble bizarre, à un croisement, je vois un cercle autour de la croix du croisement. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et je me dis, ça doit être, on est obligé, c'est interdit de tourner. Vous savez, maintenant c'est comme ça à tous les croisements. Le et alors je me dis, mais ça c'est très bien ça, on va le faire. Alors je dis à l'opérateur de se mettre sur le capot, et on le conduit, et on tourne, et il filme. Et je vois un type avec une mobylette qui était là, qui me regardait. Le type dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, je filme ça. Et je trouve ça curieux, ben, dit, ben, c'est moi qui suis l'inventeur. Je suis le premier à l'avoir fait.
C'était l'ingénieur qui avait imaginé
c'est
ça ?
C'est l'ingénieur qui avait imaginé de faire ce croisement qui oblige à tourner de façon à ce que ce soit plus facile pour la circulation. Vous voyez comme les choses changent vite au cours d'un siècle.
Alors à cette époque, bien sûr, vous avez côtoyé beaucoup de cinéastes, certains du Midi comme vous, bien qu'un peu plus à l'Est, comme Marcel Pagnol, dont vous dites, je crois, beaucoup de bien, vous aimiez bien son style.
Ah oui. Pagnol, je l'ai aimé pour 2 choses, c'est que, quand je vous ai dit, nous allons un peu en avance, mais nous y reviendrons, que quand j'ai fait de la critique de cinéma, j'ai repris ma théorie que le cinéma parlant n'était pas un recul, que si le cinéma était resté muet, ce serait des marionnettes, ce serait rien, ce serait pas possible, quoi. Alors, il y a que 2-3 types qui l'aient dit. Le premier, c'est André Malraux, que j'ai bien connu, que j'aime beaucoup, et c'est de lui que j'ai gardé le meilleur souvenir, qui a fait dans Psychologie de l'art, qui a paru dans Verve, un merveilleux passage en expliquant que le cinéma parlant, c'était l'invention du cinéma, qu'on allait passer au dialogue comme dans un roman, dans un récit. Et puis c'était évidemment Pagnol qui ne faisait pas du théâtre filmé. La preuve, c'est que maintenant, quand on ressort La femme du boulanger, tout le monde y va, hein, et ça reste. Et qu'est-ce qu'on ressort de films de l'époque, du genre ? On ressort encore à Belgance, parce qu'il y a des grands écrans, etc. Mais enfin, tous les films de cette époque-là, Marcel Lherbier, est-ce qu'on le ressort ? Maintenant, il faut dire qu'il y a tellement de ressorties à la télévision qu'on ne sait plus que ressortir, et qu'on ressort même des films muets sans intérêt.
Vous avez fait Fête de France aussi, je crois que c'est un film que vous aimez
oui,
bien.
Oui. Mais celui-là, par exemple, il est perdu. C'est un film que j'avais fait avec Jean Rivière, qui est le premier film sur le folklore français.
C'est cela.
Et c'était très, très intéressant.
Toujours selon la même technique, très rigoureuse, très méthodique.
Oui. C'est-à-dire, j'avais pris l'ordre chronologique du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, avec les principales fêtes de France, en les choisissant l'endroit en France où c'était le mieux placé. Et j'ai fait un film qui s'appelle « Lettres de Paris », que j'ai fait au lendemain de la Libération. Le Quai d'Orsay m'a dit « on a perdu des nouvelles de Paris, expliquez ce qu'est Paris au lendemain de la Libération ». Et ça, c'est un très bon film que je ressortirai probablement dans 6 mois. La Cinémathèque française m'a fait l'honneur de me dire qu'elle allait faire une rétrospective de mes œuvres. Je suis un peu accablé sous les rétrospectives parce qu'on en a fait une à Nîmes il y a un mois. et que je préférais faire des films que voir mes films anciens. Mais enfin, il y a un âge où il faut, on ne peut pas à la fois être et avoir été. Et je ressentirais... Mais alors, après les lettres de Paris, Naissance du cinéma était quand même le film qui est resté le meilleur film sur la technique du cinéma, tout à fait dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire très, très didactique, mais qui est un film increvable. Et
qui est ressorti
très
régulièrement.
Il ne se passe pas d'année qu'on prenne des extraits de ce film pour servir, parce qu'évidemment... Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient fait des choses sur Renault, sur etc.
Pour ce qui est de la technique, Roger Lénard fut un initiateur et doublement. Il usa de la caméra en professionnel, mais aussi un écrivain, un poète, un acteur. Il était derrière la caméra, mais aussi devant son micro. Il considérait qu'un film n'était un langage que par la jonction du geste et de la parole, et non pas tellement un nouveau langage, comme disent les sots. C'est qu'il avait aussi la curiosité technique, le goût des styles, qui, comme le nom l'indique, ne viennent pas seulement du stylo, mais de l'objectif, de l'émulsion, des focales, de l'éclairage. Ce n'était pas une raison, parce qu'il usait de la technique avec discernement, de ne pas soigner les mots et jusqu'à la diction. Et enfin, toutes ses œuvres devaient avoir un sens et démontrer, au moins dans un monde réputé absurde, que l'homme essayait d'y voir clair et de parler franc.
À partir de 1934, Roger Lénard collabore à la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier. Il y tient une chronique sur le cinéma, rapidement célèbre, car il y est volontiers polémiste.
Je m'étais aperçu qu'au fond, tous les gens d'Esprit, qui étaient des types très intelligents, comme Rougemont, etc., ne connaissaient rien au cinéma. Et surtout, ils ne connaissaient pas le cinéma parlant, et cette nouvelle formule, quoi. Et je me suis dit, mais il faut absolument faire une explication de ce qu'est le cinéma, et qu'il soit pour tout le monde. Et j'ai fait une série en 7 chroniques dans Esprit qui s'appelle La petite école du spectateur. Et j'expliquais, c'était le rythme, l'autre, le plan. J'expliquais la technique, si vous voulez, ce que devait savoir, de même qu'un homme qui aime la littérature doit avoir des notions générales de critique littéraire. Je trouve qu'un homme qui va au cinéma doit un peu connaître la technique du cinéma pour le comprendre.
Sur ce qui concerne la photographie, vous aviez des vues assez différentes de celles que l'on peut donner aujourd'hui, car aujourd'hui, le rôle du directeur de la photographie est très important dans un film. Pour vous, il était assez secondaire tout de même.
Oui, non, mais il est bien évident que ça a de l'importance. Pas au point que je pense. Je me rappelle une anecdote, est-ce que ça vaut la peine d'être racontée ? Je n'en sais rien. Et surtout que je ne me rappelle plus quel metteur en scène qu'il avait demandé, qui avait donné des explications très compliquées. Je veux une... Quoi, c'est Bresson ? Je veux une photographie... Oui, c'est Bresson. Je veux une photographie qui soit, non pas réaliste, mais qui ait tout de même une espèce d'irradiation. Et le malheureux opérateur qui faisait ça, se dit, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, il fait un effort, etc. Et alors, son opérateur lui a dit, mais il t'a dit de faire 2 essais. Alors, il dit, l'Odyssée, tu mets 3/4 de face, 1/4 en contre-jour, et tu tournes, et il s'en va. Et puis, on passe à la projection avec Bresson, mais au lieu de passer d'abord l'essai très compliqué où le type avait fait une photographie où il avait cherché à répondre, on passe le second, où il avait dit à son opérateur, fais n'importe quoi, et on passe ça en premier, et lui, il est très ennuyé, et Bresson me dit, mais vous m'avez totalement compris, c'est merveilleux, je vous engage. Alors c'est un signe de...
Oui, ça apporte de l'eau à votre moulin tout de même.
Oui, un petit peu.
Alors donc les critiques, les films à l'époque, il y avait déjà Renoir. Est-ce qu'on allait beaucoup voir les films de Renoir ? Est-ce qu'ils étaient populaires ?
Renoir n'avait pas la... Moi j'ai été en effet un des fanatiques de Renoir dès le début, depuis Tony et toute la série de ses films.
Sauf la Marseillaise ?
Sauf la Marseillaise. Alors là, la Marseillaise, comme on dit, j'ai eu l'impression qu'il y a... C'est simplement, si vous voulez, je crois, un égarement politique. N'est-ce pas ? C'était la mode à ce moment-là, il y avait une espèce d'influence donnée. Alors c'est les communistes qui lui avaient demandé, il a fait un film, et je dois dire que je crois que c'est pour l'anniversaire de la Marseillaise, ou quelques années après, je ne sais plus quelle revue de cinéma, a republié tous les articles qu'on a fait sur la Marseillaise, et m'a demandé de faire des commentaires sur ce que je pensais de ce que j'avais dit. Et j'ai maintenu que j'avais raison, et que d'ailleurs, je considère, d'ailleurs on le voit bien à la fin de sa vie, que Renoir, vous savez, c'est vraiment le fils de son père, vous savez, son père, une espèce d'artisan, mais qui est devenu un grand peintre, mais et qui n'est pas du tout un type de gauche. Et au fond, Renoir a suivi la mode, mais c'était un grand bourgeois. Et au fond, c'était pas son temps. Et là, il s'est un peu égaré, je crois, dans la Marseillaise. Mais si l'on me disait quel est le plus grand metteur en scène français, je continuerais à dire, je pense que c'est Renoir.
À cette époque, Roger Lénard, on parle ici de la Marseillaise de Renoir, c'est effectivement un assez bon exemple, mais vous ne craignez pas de prendre des positions politiques, vous-même êtes assez engagé, c'était avant-guerre, donc entre 36 et 39, vous avez participé au débat politique, et notamment
oui,
celui qui
oui,
opposait les socialistes
absolument.
Aux communistes.
Je suis, nous revenons là à Esprit. Esprit était une revue où je faisais une critique de cinéma, mais comme je vous l'ai dit, c'était une revue de philosophie, et d'ailleurs je suis entré à Esprit au moment où il y avait eu une scission à Esprit, c'est-à-dire que Isard avait quitté Mounier pour fonder un mouvement nettement politique. Alors Mounier voulait rester uniquement philosophique et ne pas aborder la politique. Malheureusement, c'était embêtant parce que c'était en 1934.
L'époque l'interdisait.
Et en 1934, c'est là qu'il y a eu les émeutes de 30 actes, et puis il y a eu le Front Populaire, etc. On était bien obligés de parler de politique. Vous savez, Mounier voulait quand même ne jamais avoir l'air de refuser une main tendue, et les communistes avaient été à ce moment-là spécialement, ça change, très pour être avec les socialistes et avec la gauche, quoi. Et alors, il y avait eu un débat à la mutualité, et c'était Nizan qui devait représenter les communistes. Et alors Mounier m'avait dit, écoute, c'est toi qui dois y aller, parce que quand même tu connais bien la question, tu diras bien. Alors moi j'avais demandé, je me rappelle à Nizan, je lui avais téléphoné, voyons-nous un peu à l'avance, on s'était vu au Luxembourg, je m'en rappelle très bien. Et j'ai dit à Nizan, moi je voudrais parler, il faudrait que nous mettions un corps venu, on me dit, mais que n'importe où, mon cher. Nous sommes là, chacun vous fera notre numéro, vous ferez le mien, je ferai le vôtre, je vous suivrai, je vous assure, c'est le métier, c'est comme ça. Et en effet, je me suis senti un peu bête parce que on avait parlé de la révolution permanente. Et alors moi, la révolution permanente, vous voyez, la révolution qui continue toujours, qui a toujours quelque chose de nouveau à faire. Et je me rappelle très bien que Nizan m'a dit, j'ai rougi un peu, moi qui suis un permanent du Parti communiste, je ne peux pas m'empêcher de prendre le type de vocabulaire traditionnel. La révolution permanente, c'est la révolution qui continue dans d'autres pays que l'URSS. Mais ça n'a aucune importance, prenons le point de vue de Roger Lénard et continuons, il était charmant et ça a continué. Et je me rappelle que j'ai eu ce souvenir charmant de 10 ans et que j'ai été d'autant plus ému quand, à la guerre, 10 ans, vous le savez, juste 2 mois avant la guerre, que dès qu'il y a eu le pacte germano-soviétique, du moment que la Russie passait avec l'Allemagne, a quitté le Parti communiste et 2 mois après a été tué après à Dunkerque, au moment où il cherchait à gagner l'Angleterre. Et j'en ai gardé un souvenir très ému. D'un homme qui est d'ailleurs un grand écrivain, et dont il faut relire La Conspiration, qui, plus encore que Aden Arabi, est un très grand livre.
Le Club d'essai présente Julien Berthaud, sociétaire de la Comédie Française, dans... Victor Hugo. Récit radiophonique de Roger Lénard et Claude Roy, réalisé par Alain Truta.
Je n'ai pas d'autre affaire ici-bas que d'aimer.
Avec Louise Comte, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Juliette Drouet. Musique originale de Guy Bernard, exécutée sous la direction de Georges Delerue. <t'->
29 novembre 1885, vers 11h du soir, au domicile de l'historien Henri Avard, étaient réunis le neveu de Madame Victor Hugo, Paul Fouché, son gendre Édouard Locroix et deux de leurs amis.
Paul, voulez-vous aller voir ce que c'est ?
Oui.
Homme de langage autant que d'image, Roger Lénard ne pouvait se priver de l'instrument de la radio pour s'exprimer. Il y reviendra à plusieurs reprises dans sa carrière.
Je ne me rappelle plus très bien, je me rappelle ma première émission, c'était dans les années 30. Pourquoi ? C'est parce que, je vous ai dit, j'étais très intéressé par la bande-son, parce que j'étais monteur. Par conséquent, le montage radio était exactement la chose qui me semblait passionnante, quoi. Et j'ai fait une première émission où j'étais metteur en onde, et c'était sur un film de Pagnol, Topaz, oui, transcrit en radio. Le type qui l'avait transcrit, j'ai oublié son nom, était un ami de Cocteau, qui est mort avant la guerre. Mais Cocteau a eu tant de jeunes amis qu'on peut oublier son nom. Mais ce que je me rappelle, c'est que le personnage de Topaz était joué par Itkin. Et je me rappelle que la deuxième chose, je me rappelle, c'est que un peu avant la guerre, j'ai proposé de faire un reportage juste avant la guerre, sur la Pologne, un reportage radiophonique. Et j'ai passé un mois en Pologne, où j'ai fait ce reportage merveilleux que je voudrais bien, je crains qu'on ne le retrouve pas dans les archives de la radio, que je voudrais bien réentendre, où c'était très étonnant. Tous les Polonais, alors je l'interrogeais, c'était quand même un mois avant la guerre, je l'interrogeais sur les Allemagnes, ils me disaient, on s'en fout les Allemands, c'est les Russes, ils vont tous nous tomber dessus. Ah, ils avaient une peur des Russes épouvantable, et ils avaient raison. Et bien heureusement, quand je suis rentré, j'ai monté ça avec soin. Comme vous le savez, le soin qu'on peut mettre à monter un reportage de cette importance. Et ça devait sortir à la radio un jour donné, en août ou en juillet de 39. Et ce jour-là, c'est le jour où je suis parti, il était mobilisé, et ça n'a jamais passé. Et ensuite, j'ai fait de la radio après la guerre. J'ai eu une guerre dont je ne parlerai pas, mais très, très extraordinaire, parce que j'ai été mobilisé. Je suis allé à la drôle de guerre. J'étais en Lorraine, là, à ne rien faire. J'étais maréchal des loisirs du train des équipages avec des camions. J'ai fait un tour de France impensable pour... avec la fuite, je suis allé jusqu'à Rennes et puis Nantes, et je suis revenu à Montpellier parce que
mon commandant
a dit, étant donné ce qui se passe, la meilleure des choses, c'est que nous rentrions au dépôt. Alors tous les types, ils avaient envie de... Et on a foutu le gars à toute vitesse. Je me rappelle quand on a traversé la ville de Nantes, toutes les filles de Nantes sont mises au balcon et nous faisaient des bravos parce qu'elles nous prenaient comme des héros, et nous on foutait le gars à toute vitesse. Et alors je vous disais donc, rentrant après la guerre, j'ai reçu une lettre d'Emmanuel Mounier d'Esprit me disant « Je cherche à retrouver mes amis, j'ai appris ton adresse et je te signale qu'à Vichy, qui n'est pas ce que l'on croit, un certain Pierre Schaeffer, qui fait une émission qui s'appelle Radio Jeunesse, cherche, ce qui paraît extraordinaire, c'est en 40, n'est-ce pas, un technicien de la radio à sensibilité Front Populaire. » Je lui ai dit, il y a un certain Roger Hénard qui correspond à la chose, je le dis. Et donc, alors, j'ai fait ça, puis Schaeffer, après ça, a fait un mouvement qui s'appelait Jeune France. Et,
qui n'était plus à Vichy, alors il a quitté
qui
Vichy.
Il n'était plus à Vichy, il est allé à Lyon. Et moi, j'ai demandé d'avoir Jeune France pour Marseille et l'Afrique. Et puis, j'ai arrêté et j'ai repris mon métier qui était le cinéma. Et je suis rentré à Paris, mais ce n'était pas fini pour la radio. Parce qu'à Paris, il y avait Pierre Schaeffer, que j'ai revu, j'ai travaillé avec lui. J'ai fait, pendant l'occupation des émissions à la radio, j'ai fait un... Et là, justement, je regrette infiniment que le disque soit perdu. J'ai retrouvé les textes, j'ai fait un bestiaire. C'est-à-dire l'idée de faire le lion, la licorne, en radio. À ce moment-là, débarquement en Normandie, et je bondis chez Pierre Schaeffer. Il me dit, tu arrives trop tard, mon vieux. Il y a Guignebert, tu sais, qui est de Londres, qui a pris la direction. Maintenant, je suis je suis mis au placard, quoi. J'ai plus de pouvoir. Je sors et je vois dans le couloir, en uniforme, un de mes amis qui s'appelait Desjardins, que j'avais connu avant la guerre, avec qui j'avais fait un club de la presse, encore une histoire très amusante que j'aurais pu vous raconter, mais il y en a trop, et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « J'étais rentré à Paris parce que je voulais faire de la radio, mais maintenant, Schaeffer qui est là est dégommé, c'est Guignebert qui dit « Je comprends bien, il dit c'est Guignebert. Mais écoute, son bureau est en face, entre !» Il entre, et il dit à Guignebert « Je vous amène Roger Lénard. » Je suis sûr que Guignebert ne connaissait pas mon nom. « Oh !» Il dit « Quelle bonne nouvelle !» Et alors vous, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous pourriez faire à la radio? Alors je dis, moi, vous savez, je suis un homme de cinéma, par conséquent. Alors il saute dans sa secrétaire et dit, les émissions sur le cinéma, on a nommé quelqu'un? On dit, non, personne. Et bien entendu, alors prenez toutes les émissions sur le cinéma. Et alors j'ai fait ensuite deux choses, pendant quelques mois, une émission qui s'appelle Le Tribunal des Ondes, on le faisait avec Claude Roy et Nicole Bédresse. Nicole Bédresse était une merveilleuse parleuse, et on a improvisé avec une facilité énorme. Quelquefois, on arrivait en retard, on n'avait pas le temps de savoir, et à peine arrivé, on disait « De quoi parle-t-on ? » Quelqu'un le disait, tu as vu le film, et on enchaînait comme ça. Je me rappelle que Claude Roy, lui, il était amoureux de Véronique Alec. Et alors, il parlait toujours d'elle en disant « Un jour, elle saura bien que je parle d'elle, et peut-être que je ferai ça. » Et puis l'autre émission qui était intéressante, vous savez que je vous dis que je crois que l'image n'a pas une importance capitale pour le cinéma, j'ai fait une émission qui s'appelait « L'écran sans image », qui consistait à prendre des films nouveaux qui sortaient et à en faire des émissions de radio.
Et puis vous revenez au cinéma, qui est votre vocation première, mais qui n'est pas du tout éloignée d'ailleurs, d'après ce que vous dites, de ce que vous avez voulu faire à la radio. Et là, vous vous lancez dans le long métrage. Vous n'avez pas encore fait de long métrage à cette époque.
Non, je n'avais pas fait de long métrage. C'est après naissance du cinéma. J'ai fait un ou deux scénarios pour des metteurs en scène. N'est-ce pas ? J'ai commencé comme ça, parce qu'évidemment, j'étais scénariste, auteur, et je croyais à ça. Et puis, je me suis dit tout de même, je pourrais faire un film. J'écris le scénario des vacances. Il s'agissait maintenant, j'étais toujours scénariste. Il s'agissait de faire la mise en scène. Et alors, Gérard me dit, mais écoutez, Roger, au fond, c'est ridicule. Vous faites des documentaires, vous en avez fait qui sont célèbres. Vous avez été monteur. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre un metteur en scène pour tourner vos films? Tournez-le vous-même. Et en effet, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. J'ai été très aidé. C'est là que j'ai pris Agostini comme chef opérateur, qui m'a été très utile, et j'ai tourné les liens à vacances avec une facilité extraordinaire, dans le temps donné, sans rallonge, et le film a eu la chance de rester
un
classique.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tourné davantage de longs métrages, Roger Lénard ?
Eh bien oui, ça c'est un des problèmes qui est difficile à dire. Je pense que c'est affreux à dire. Mes origines, je ne dis pas, je n'ai pas fait de commerce, mais d'indépendance venant de mon milieu protestant, où je veux bien avoir affaire à des clients, mais je ne veux pas avoir affaire à des patrons. Comme j'avais une petite maison de documentaires et je faisais des courts-métrages, là, il faut les demander, mais on demande ça au Quai d'Orsay. Alors là, ça m'est très égal, je déjeune avec le type du Quai d'Orsay, je voudrais faire un film, comme vous avez une idée, oui ou non, ou bien un industriel, est-ce que vous faites un film, ça va bien. Et c'est simplement 9 ans après qu'un jour, en déjeunant avec Anatole Daumont, il m'a dit « C'est ridicule que vous ne fassiez pas de grand film, quand on pense à des vacances. » Oh, je lui ai dit « Vous savez, moi, courir après un mais vous n'avez besoin de rien. L'avance sur recette, étant donné votre nom, c'est vrai que c'était très connu, j'avais fondé le festival de Tours, qui était le festival de court-métrage, j'avais un nom important dans les années 50. Vous aurez une avance sur recette comme vous voudrez, vous ne vous occuperez de rien, je me chargerai de tout. » Et alors, je lui ai proposé un premier sujet d'ailleurs que je n'ai pas voulu faire, et puis je lui ai proposé ensuite le rendez-vous de minuit. Et il l'a proposé, on a eu de l'avance sur recette, et on l'a fait. Et ça a été mon second film de court-métrage. Le hasard. Et ensuite, j'ai fait simplement un film avec la télévision, Une fille dans la montagne, qui est mon troisième film de fiction. Ce qui fait que j'ai eu une carrière très courte, mais fort heureusement, quand on fait une rétrospective, on repasse mes trois films de long métrage.
C'est vrai. Roger Lénard, aujourd'hui, vous disiez en commençant cet entretien, vous êtes un petit peu agacé, encore que sans doute flatté aussi, de toutes les rétrospectives que l'on vous consacre et de très nombreux extraits de vos films que l'on passe ici et là et que l'on vous demande. Au fond, c'est parce que vous avez surtout envie de continuer à travailler.
Bien, il est évident qu'on regrette de ne pas travailler, mais je suis obligé de reconnaître que la loi sociologique du genre fait que, pour vouloir faire du cinéma ou de la télévision, il faut un acharnement que je n'ai plus.
Comment jugez-vous le cinéma aujourd'hui ? Est-ce que vous y allez beaucoup ?
Eh non. Il y a tout d'un coup un moment où, brusquement, on se sent, c'est pas... Je suis agacé de mal juger le cinéma contemporain. La dernière fois que j'ai passé à la télévision, je me rappelle, c'était une émission que faisait FR3, qui a été abandonnée tout de suite. Je me rappelle qu'il y avait Billard et quelqu'un d'autre, qui faisait cette émission. Et c'était une émission sur le film sur l'adolescence. Alors il y avait 4 ou 5 jeunes types ou filles. Grâce à Dieu, maintenant, il y a autant de metteurs en scène femmes que d'hommes. C'est là encore... Ça change. Au début du siècle, quand je débutais, il n'y avait pas beaucoup de femmes, vous savez, qui faisaient du cinéma. Et je me rappelle qu'évidemment, on m'avait demandé de venir, film sur l'adolescence, et les vacances, ça reste quand même le modèle. Je vais aller voir, je trouvais ça incompréhensible, etc. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tâché d'être aimable, etc. Mais à la fin, on m'a donné la parole pour une conclusion, et j'ai dit, pour dire toute ma pensée, moi, je considère qu'il y a une évolution irréversible. Au fond, le cinéma français est mort. Ce que je pense, c'est que le cinéma n'est plus ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand art. Qu'est-ce qu'un grand art ? C'est un art qui touche à la fois les élites et les masses. La tragédie antique, si vous voulez, était vue par les amphithéâtres entiers, par le peuple grec, mais en même temps, tout de même, Eschyle et Sophocle, les philosophes les lisaient et les comprenaient. De même, si vous voulez, au XIXe siècle, le roman... C'est un grand art. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, mais enfin, justement aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un déclin du roman français quand même je le dirais. En tout cas, ce n'est plus ce qu'était justement Balzac ou Zola, des choses qui étaient à la fois vues par les critiques littéraires avec passion et lues par les foules, même vues en feuilleton. Eh bien, dans les années 40, 50, le cinéma... était un art qui passionnait à la fois les critiques, mais qui passionnait aussi toutes les foules. Et il semble maintenant que ça a été cassé en deux. Ou bien vous avez ces films, je ne dis pas simplement science-fiction ou violence, ou je ne sais pas, ces films américains à gros budget, qui font des recettes terribles, ou bien vous avez des films genre Marguerite Duras, mais enfin, sous Marguerite Duras, qui sont peut-être très remarquables, mais qui ne sont vus par personne, quoi. Or, je crois que ce qu'il y a de bon, c'est les deux à la fois. Chose qui est un peu en train de disparaître. Ceci dit, je ne voudrais pas terminer par une conclusion pessimiste. Et tout de même, je vais rarement au cinéma, mais j'y vais de temps en temps. Et il y a quand même certains auteurs qui ne sont pas ceux... malheureusement, qui au moins en France sont les plus connus, que je considère comme très grands cinéastes. Je vous disais, Renoir est le plus grand cinéaste français. Vous me diriez, quel est le plus grand cinéaste français actuel ? Je suis content de terminer par ce compliment. Je dirais Éric Rohmer. Parce que justement, Rohmer, d'ailleurs, s'il n'a pas en France une très grande audience, a une audience internationale très importante, n'est-ce pas ? Mais je crois que Rohmer est un homme qui, justement, fait des choses qui peuvent toucher le public et en même temps toucher les élites et les intellectuels. Voilà. Il n'y a pas que lui. De temps en temps, j'avais eu l'impression, j'ai pas vu son dernier film, mais quand j'avais, au moment de 68, où j'étais vraiment un peu agacé par le tournant du cinéma, je me rappelle que Doyon avait été un des types qui m'avait touché le plus, et je me rappelle être allé à Cannes, où on m'avait invité pour la commémoration de la mort d'André Bazin, qui, vous savez, était un grand ami à moi, et André Bazin avait dédié son livre à François Truffaut et à Roger Lénard, c'est-à-dire à son fils spirituel et à son père spirituel, car il me considérait comme père spirituel. Alors je suis allé à Cannes, et à Cannes, on passait justement un film de Doyon, et j'ai dit, mais c'est beau, ça mériterait un prix. Et je me suis aperçu qu'il avait eu un prix, ce dont j'étais heureux. Il y a encore, oui, le cinéma français n'est pas tout à fait mort.
Roger Lénard, en bon protestant qu'il est de souche de tradition, propose le dialogue le plus intime, le tête-à-tête avec soi-même, la conscience donc, qui ne lui fait jamais défaut. Et comment éclairer cette conscience, sinon par l'œuvre ? Pour qui a la chance de créer avec des images, avec des sons, avec des mots, le tête-à-tête n'est pas si solitaire. L'œuvre répond à son auteur, indique ses propres chemins, montre la diversité de ses choix. Obéir à cette inspiration-là, ce n'est pas caprice, au contraire. C'est entendre, à travers les choses, leur profonde convenance, le discours qu'elles s'offrent à porter. Ainsi, l'exigence esthétique n'obéit pas chez Roger Lénard à quelques théories du beau. Elle est une inclination et une inclinaison à respecter le cours des choses. Et pour qui croit en un Dieu créateur, c'est aussi y lire son intention. Roger Lénard, trop discret pour expliciter et forcé à l'interprétation, nous donne cette leçon de respecter assez la confection du message, le voile que cachent les images, les sons, le langage donc, pour que nous parlent les phénomènes. Et à la plus grande gloire de quelque intelligence qui nous dépasse et que par discrétion, nous n'osons même pas nommer Dieu.
Mémoire du siècle, c'était un hommage à Roger Lénard. Émission proposée par Dominique Rousset, avec la participation de Pierre Schoeffer et les archives de l'INA. Mixage, Arlette Adrian, Emmanuel Colchet. Réalisation, Marie-Vonne Noël.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 décembre 1985.